Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce dimanche pour une table ronde qui va faire sûrement débat. On va bien discuter tous ensemble. Donc l'intitulé « Le personnage non blanc, sa représentation dans la science-fiction ». Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, je vais présenter nos invités. Il y a Valérie Lawson, donc modératrice aux Imaginales, afroféministe et présidente du Festival des Mondes de l'Imaginaire. Bienvenue. Il y a Gwenaëlle Gaffric, au fond, traducteur et docteur en études chinoises. Vous avez traduit le problème à trois corps de Liu Cixin chez Actes Sud. Et vous vous intéressez aux nouveaux espaces d'expression littéraire dans le monde sinophone. Et entre autres, vous êtes aussi venu en tant que traducteur, parce que nous avons un invité de marque qui vient de Taïwan, Cao Yifeng, donc qui est auteur de La guerre des bulles aux éditions Mirobol et qui a participé à la série Désincarnation. Cao Yifeng est taïwanais, il est venu spécialement pour les Utopiales et donc il sera traduit par Gwenaëlle. Merci beaucoup. Nous avons Nabil Wali, qui est auteur de La voix de l'empereur aux éditions Mnemos. Et enfin, Karim Sitayeb, qui est chercheur à l'Institut du Thorax à Nantes, spécialiste des cellules souches, et vous travaillez au sein de l'équipe dyslipidémie et l'hypotoxicité. Voilà, super. Alors, on va parler d'un sujet qui fait régulièrement débat, donc le personnage non blanc est dans la science-fiction. Alors c'est intéressant parce qu'on a eu pas mal de cas d'école ces derniers temps au cinéma. Ça a commencé avec Star Wars numéro 7, Le réveil de la force. Alors, je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous se souviennent la première image de la bande-annonce, et on voyait l'acteur John Boyega, donc un acteur noir, et il y avait eu déjà des polémiques sur les réseaux sociaux de gens qui étaient scandalisés de voir un acteur noir. Donc déjà, pour rebooter la série Star Wars, il y avait quelques problèmes. Puis après, il y a eu Doctor Strange, donc Marvel, grosse franchise aussi, Disney toujours. Et il y avait un personnage asiatique qui devait former le Doctor Strange, et donc c'est Tilda Swinton, une actrice donc blanche qui incarnait un personnage asiatique. Cette pratique était assez connue dans le cinéma dans les années 30, même à 40. Hein, pour ceux qui aiment John Ford et les westerns, souvent les Indiens étaient joués par des blancs qui pouvaient être peints. Et puis il y a aussi des anciens acteurs au début du siècle, du 20e siècle, 1915, Naissance d'une nation, dans les films en noir et blanc, il y avait des acteurs qui n'étaient pas en noir. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que 100 ans après, alors c'est pas du tout les mêmes, enfin c'est pas du tout pareil, on peut pas comparer, mais on sent que c'est difficile d'avoir des personnages de couleur ou qui échappent aux clichés. Autre, on va dire exemple assez récent, Ghost in the Shell, donc manga cultissime de Masamune Shiro, animé cultissime, et donc Scarlett Johansson en actrice qui représentait donc l'agent Motoko Kusanagi. Donc pareil, pas mal de débats, pourquoi on ne peut pas prendre une actrice asiatique ou japonaise ou chinoise pour jouer le rôle du major, et pour des raisons souvent économiques. Et puis Scarlett Johansson est quelqu'un qui fait venir du monde en salle, on préfère prendre des personnages blancs. Voilà. Donc on va parler de pas mal de choses, et je vais demander à mes invités, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la représentation en ce moment des personnages de couleur dans les films ou dans les œuvres de science-fiction? On va commencer avec Valérie.
Avant de commencer là-dessus, j'aimerais bien qu'on revienne sur le titre de notre table ronde et sur le fait d'avoir choisi le mot personnage non blanc. C'est un petit peu problématique pour moi, et je pense pour plein de personnes qui sont comme moi, et qui sont comme moi, je vais vous définir tout de suite le mot, qui sont comme moi, racisés. C'est un terme que plein de gens n'emploient pas encore, qui est un terme un petit peu militant, qui est un terme qui a été choisi pour définir les personnes qui ne sont pas blanches, et pour les unir dans une terminologie qui ne soit pas négative. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas non blanche, je suis noire. Je ne me définis pas en négatif. Et surtout, la question de la traduction du mot « person of color », « POC », en anglais, était compliquée en français. C'est une terminologie qui n'est pas forcément facilement acceptable. Ça couvre plein de gens. Donc, ici, autour de cette table, nous sommes des personnes racisées. Pas parce qu'on est raciste, ni parce qu'on se définit par notre race, mais parce qu'on est défini par l'ensemble du monde selon ce à quoi on ressemble et selon notre racialisation. C'est-à-dire que nous subissons une racialisation. On l'a choisi pas, et vous choisissez pas d'être blanc, j'ai pas choisi d'être noir, et donc c'est important de se définir de façon positive par rapport à ce qu'on vit au quotidien, et c'est important de penser que quand on lit quand on va voir des œuvres de science-fiction, nous aussi, on a envie de se sentir représentés. Je vais citer une réalisatrice française qui s'appelle Amandine Gay, qui a un film récemment qui s'appelle Ouvrir la voie, qui est un film exceptionnel que je vous engage à aller voir, qui est un film documentaire de 2 heures sur la parole des femmes noires francophones. L'idée, c'est est-ce que quand vous allez voir un film, vous vous dites, tiens, le personnage est blanc. Est-ce que quand vous allez voir un film, c'est important pour vous que le personnage vous ressemble? Est-ce que quand vous lisez un livre, moi j'ai lu Tolkien à 12 ans et je me suis projetée dans Tolkien. Donc, à l'heure actuelle, ce que dit Amandine Gay, c'est qu'il devrait être possible pour tout le monde de se projeter dans un film où il n'y a que des noirs, parce que ce sont des personnages et qu'ils sont d'abord des étudiants noirs, des voyageurs de l'espace noirs, des commandants de stations spatiales noires comme dans Star Trek. Voilà. Donc, dans la science-fiction, longtemps, les personnes se sont posées la question de savoir, est-ce que moi, en tant que noir, un jour, je serai dans l'espace? Est-ce que moi, en tant que noir, ou en tant qu'arabe, ou en tant qu'asiatique, je fais partie du futur? Est-ce que avant Star Trek ou dans d'autres univers que Star Trek, on se sent représenté? Moi, il y a beaucoup de films où je me dis, ah, ok, donc dans le futur, dans 200 ans, il n'y a pas de noir dans l'espace. On ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui s'est passé comme épidémie ne frappant que la population noire sur le monde, mais on n'est pas dans l'espace. Donc voilà, ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de se voir, se sentir représenté, parce que pour se projeter et pour se sentir citoyen du monde aussi, eh ben, c'est important de se voir à l'écran, de se voir dans les livres et de se voir correctement représenté. Ça sera une autre question, je pense. Voilà,
merci beaucoup, Valérie. Karim. Non, Nabil.
C'était simplement pour rebondir sur ce que disait Valérie par rapport à la question de la représentation, la représentativité et surtout par rapport à la question du mot race, en fait. Aujourd'hui, on est souvent confronté dans ces débats à l'argument selon lequel se définir comme racisé ou parler des personnes qui sont noires, arabes, asiatiques, etc., nourrirait le racisme avec l'idée selon laquelle, mais de toute façon, quand on n'est vraiment pas raciste, on ne voit pas les races. C'est faux. Parce que le racisme n'est pas simplement en fait, une représentation ethnique et génétique. Le racisme est une détermination sociale. Donc quand on parle de racisme aujourd'hui, on ne se contente pas simplement de dire qu'il y a des personnes de différentes couleurs, avec des isolats génétiques de différents endroits du monde et de différentes époques, etc. On parle d'une réalité qui fait que les personnes sont, à l'extérieur d'elles-mêmes, englobées, comment dire, dans un système qui les singularise. Et je pense que c'est important parce que l'argument du « les races n'existent pas, donc la représentation, c'est... » Non, ça ne marche pas, malheureusement, pour cette question. Parce que le racisme est une réalité sociale avant tout, et non pas génétique.
Si vous avez des amis noirs et racisés, arrêtez de leur dire « non mais moi je ne vois pas les couleurs ». Parce que vous voyez les couleurs, tout le monde voit les couleurs. Moi je vous vois que vous êtes blanc, vous voyez que je suis noir. Il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont... Et alors ne dites pas non plus « oh non mais non, vert, blanc, rouge, violet, peu importe ». Il n'y a personne de vert dit de violet. Hein, donc, sauf peut-être en science-fiction, et justement c'est important. Pourquoi est-ce qu'en science-fiction on représente des personnages noirs ou violets? Pourquoi dans Avatar les Indiens deviennent bleus? Soyons clairs, c'est un western Avatar. Dans l'espace, on est presque tous d'accord là-dessus. Donc voilà, pourquoi est-ce que quand on parle de colonisation, de l'expansion du monde blanc dans le reste de l'univers, pourquoi est-ce qu'on représente des hommes bleus? Ils auraient pu avoir la peau rouge et tout le monde aurait compris que c'était des Indiens. Voilà, donc effectivement, le problème, la difficulté en France, c'est une difficulté très française, c'est qu'on a tous vécu avec l'idée de l'universalisme. Nous sommes les héritiers du siècle des Lumières, nous sommes les héritiers des droits de l'homme et de l'égalité, de la fraternité et de tout le monde se ressemble et on est tous égaux. Oui, on est tous égaux, mais quand... et encore, moi, je suis, comme on dit, pas très foncée. Mais quand on est noir et qu'on cherche un boulot, quand on est noir et qu'on cherche un appartement, ça se passe différemment. Donc on a beau tous être égaux, ça se passe différemment. C'est un truc assez objectif, c'est moche, on aimerait bien qu'il en soit autrement. Moi aussi, je rêve d'un monde où à un moment, on verra plus les couleurs. Mais en attendant, là maintenant, à l'instant T, on les voit. Et c'est pas très grave d'en parler. C'est pas très grave de dire « ma voisine est noire ». C'est un petit peu plus problématique de commencer à dire « ma voisine est black ». Parce que black, c'est certainement l'héritage d'une période black-blanc-beurre. Mais black, c'est un mot anglais, ça veut rien dire. Ou alors, moi, vous acceptez l'idée que je vous dise « Hey, le white, comment tu vas ?» vous êtes d'accord, c'est un peu ridicule, donc on ne va pas le faire. Mais voilà, je pense que c'est important, et c'est le rôle, pour moi, c'est vraiment le rôle des littératures de l'imaginaire, de mettre en place des modes de réflexion et de mettre en place des outils pour que chacun puisse progresser et qu'on puisse tous... Alors, je sais que le vivre ensemble, c'est un petit côté un peu ridicule, mais si on veut que ça arrive, si on ne veut pas que les fossés se creusent, si on ne veut pas que tout d'un coup, ça soit réellement la guerre entre les blancs et les non-blancs, il faut qu'on fasse tous un effort. Et ceux qui ne sont pas concernés par le racisme ont aussi à faire un effort pour que les choses changent. Je pense que vous avez un peu tous suivi récemment ce qui s'est passé sur le féminisme. Les hommes qui ne sont pas concernés par le sexisme, s'ils ne font pas un petit pas pour que les choses changent, ça ne changera pas. Donc voilà, c'est un petit peu la même, c'est un petit peu les mêmes thématiques. C'est pour ça qu'on parle de féminisme intersectionnel et que, par exemple, il est mis en avant que quand on est femme et noire, on vit deux oppressions différentes. On vit le sexisme et on vit le racisme, et que ça nous met dans une position un peu différente des féministes blanches. C'est pas divisif, c'est pas quelque chose qui divise, c'est quelque chose qui prend en compte les spécificités de chacun. Moi, par exemple, je ne peux pas parler à la place d'une personne transgenre parce que je ne suis pas transgenre. Et donc, c'est important que je puisse, dans les débats qui pourraient concerner ces questions-là, que je puisse faire la place aux personnes concernées. Voilà. Ce qu'on demande aux hommes, c'est de faire la place aux femmes. Mais nous, en tant que racisés, ce qu'on demande aux personnes blanches, c'est de nous faire la place pour qu'on puisse s'exprimer sur nos différences.
Je voudrais interroger, merci hein, pour tout ce qui est, pour avoir aussi déblayé. Ce moment de déblayage et de aussi préciser les termes. Je voudrais poser une question à Ko Yifeng sur aussi comment lui voit la représentation notamment des Asiatiques dans la science-fiction. Souvent on a pas mal de clichés qui demeurent, merci les films d'arts martiaux, et du coup comment lui voit, comment lui perçoit ça en tant qu'auteur et puis même en tant que comment, en tant que Taïwanais, il voit ça, cette représentation-là ?
Alors, d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas tous les Asiatiques qui vont faire ce genre de choses. Et puis, je vais donner un exemple, c'est le Conquer Jidong Dui, dans le vrai film, c'est Scarlett Johansson qui a joué le rôle de la Gongan Jouke de la Japonaise. 他们是找北野武来演这个角色。那我所认识的北野武跟在那部电影里面的北野武基本上我觉得没有太大差异。但是很奇怪的就是我在看北野武自己拍的电影或自己演的电影的时候，我觉得那个就是北野武。但是当北野武进入到公安九科的那个就是攻壳机动队里面担任那个角色的时候，他跟Scarlett Johansson跟所有的 不同的这个肤色的人一起演戏的时候，他的那个角色突然之间就变得非常不一样。对我来说，要不要先翻到这边？对。
Alors déjà pour commencer, oui, tous les Chinois et les Asiatiques font pas forcément du kung-fu. Pour ce qui est de parler d'exemples un peu plus concrets, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure avec l'adaptation au cinéma de Ghost in the Shell. Pardon. Avec le personnage, alors on a parlé un petit peu de Scarlett Johansson, ce qui est intéressant aussi, c'est le personnage de Daisuke Amaraki, qui est joué par Takeshi Kitano, qui est donc un acteur-réalisateur japonais, et la manière dont il interagit avec les autres personnages. C'est-à-dire que même si le personnage non-blanc peut apparaître, enfin, non-blanc, le personnage asiatique peut apparaître dans un film, déjà critiqué pour éventuellement le whitewashing qui existe déjà, c'est la manière dont lui, en tant que réalisateur-acteur, quand il joue dans ses propres films ou dans des films japonais, agit, et la manière dont on lui demande ou dont il agit dans les films où il est le japonais de la bande.
其实我也想回应一下刚刚前面聊的那个话题，就是说谈到了那个有关于就是不同肤色的那个在影片里面被看到的状态是怎么样子。其实台湾非常小，但是在台湾本身就面临了类似的问题。比如说台湾我们早前会说有一群住在台湾的原住民，然后像我们客家人 或者是闽南人是从中国大陆移过去的，然后开始产生了排挤的效应。本来住在平地的这个原住民就慢慢的往山里头去，结果后来他们就变成了这个所谓的山上的人，就变成山地人。那这个词汇本身，它其实某个程度存在着两种事情，就是刚刚谈到的。第一个就是，它其实它是以非常明显的轮廓跟频谱族是不一样的，然后被看见。 然后这个基本上他已经先觉得出现了一种他跟我长得不一样的这个点。当然回到影片来上去的时候，影片的那个投射更快，更清楚，就是说因为在影片里面，当我们看到一个客家人跟一个就是中国大陆来的福建人一起演电影的时候，你不会觉得他不一样，但突然之间出现一个原住民的轮廓的时候，你马上就意识到说，哎，他不是，就像公安九科里面北野武，他在那个角色里面，他是瞬间就被看见，他不是西方人，他是亚洲人，这是一个很快速的、很大量的一个撞击。
Pour faire un peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure en termes de visibilité, en fait, où ça se voit presque sur votre visage, il y a un problème qui est un peu similaire ou une situation un peu similaire à Taïwan même, qui malgré le fait que ce soit une petite île, c'est un endroit où coexistent aussi plusieurs ethnies, et notamment ce qu'on appelle à Taïwan les aborigènes de Taïwan, qui ne sont ethniquement pas chinois, mais austronésiens, et qui ont une couleur de peau qui est généralement plus foncée, des cavités oculaires qui sont plus profondes, etc. Et c'est le même souci, c'est-à-dire que c'est visible. On voit très bien, même s'il existe plusieurs ethnies au sein de la population d'origine chinoise, venue à travers le temps depuis la Chine, il existe également cette différence visible, physique, entre population d'origine aborigène et d'origine chinoise, même si ça date de générations en arrière. Et le problème se retrouve également dans les films, un petit peu comme Takeshi Kitano finalement dans Ghost in the Shell, où à partir du moment où il apparaît sur l'écran, tout comme un aborigène apparaît sur un écran d'un film taïwanais, il y a tout de suite ce premier regard qui est de dire, tiens, lui, il appartient aux autres et pas à nous.
Karim Sitayeb, vous qui êtes aussi fan de chercheurs donc scientifiques, mais aussi fan de science-fiction, quelle est votre vision vous, dans du
ben, moi, je rebondirais sur ce que disait Valérie. En fait, le problème, c'est qu'il y a un imaginaire à construire qui n'est pas encore complètement complet et qu'on a du mal à se représenter l'humanité dans son ensemble et non pas en fonction de la couleur de la peau ou des origines sociales dans des œuvres de science-fiction. Et j'ai deux exemples qui m'ont un peu interpellé. Donc, il y a le premier, je pense que c'est un clin d'œil d'Andrew Nichols, donc, qui a fait Bienvenue à Gattaca. Et donc, les personnes viennent pour voir leur généticien pour essayer d'avoir le bébé le plus parfait possible. Et le généticien est noir. Et donc, il fait la remarque donc, vous aimeriez que votre enfant ait les yeux noisettes, les yeux châtains, la peau claire, avec une petite pause. Donc déjà, ça, c'est aussi un élément qui était finement amené. Et l'autre exemple que je voulais amener, c'est... j'ai vécu un moment aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est quand même très... Il y a cet impact de quotas dans le cinéma, où on pourra en parler, ou dans la série Star Trek. Et il y a l'adaptation d'Hunger Games. Donc j'ai pas lu le bouquin, j'ai vu les films. Et le premier truc qui est sorti, mais vraiment dans le travail pour les gens qui l'ont lu, c'est qu'il y a un des personnages était incarné par Lenny Kravitz, noir. Et les gens l'avaient vraiment dans leur imaginaire blanc. Et ça fait débat. Ça vraiment. Et c'est, ouais. Mais voilà, mais ça montre que l'imaginaire est aussi fort.
Moi qui ai lu, je ne l'ai pas imaginé blanc. Souvent, je n'imagine pas les gens, tout simplement, je n'imagine pas leur couleur.
Ben c'est rare que ce genre de discussion émane. Et en fait, c'était assez unanime. Les gens étaient surpris, en fait.
En revanche, dans la même adaptation, les gens ont aussi été surpris que la petite fille roux qui meurt soit noire, alors qu'il est clair dans le livre que le district dont elle émane est un district rempli de personnes noires, et que en fait les gens qui allaient au cinéma sont en attente de choses qui leur ressemblent, sans se poser de question que le blanc c'est pas la couleur par défaut, hein.
C'est ça, et c'est ce qui manque, et je pense que la science-fiction en général a besoin d'avoir cette diversité tant au niveau des auteurs qu'au niveau des univers et de la représentativité de l'humanité, pour que l'imaginaire puisse ne pas se limiter à un type de personne.
Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques films de science-fiction où on a une espèce d'universalisme de couleurs. Je pense notamment à Matrix, notamment donc le premier Matrix, mais après Reload et Révolution. Je pense à Snowpiercer aussi, je pense à Cloud Atlas. Alors après, on peut parler des sœurs Wachowski qui sont quand même des ambassadrices de mixité. Qu'est-ce que vous, par exemple, Nabil, qu'est-ce que toi tu en penses de, de ça, de cette, on va dire qu'il y a certaines œuvres de science-fiction qui quand même arrivent à une mixité.
Sense8 aussi.
Sense8 donc aussi des
Wachowski. Sense8 c'est quand même un exemple assez spectaculaire effectivement de à quel point on peut créer une œuvre aujourd'hui safe. Au sens où elle parvient en fait à parler à des gens qui n'étaient de toute façon pas représentés dans la plupart des œuvres précédentes. Je me rappelle le premier épisode de Sense8, il me semble qu'il y a une scène de sexe lesbienne trans, pardon, autant, j'ai pas vu la suite du coup, autant pour moi. Donc deux personnages racisés d'ailleurs. Et je me rappelle que tout de suite j'ai été ah ouais, ils ont osé. Mon réflexe c'est d'avoir vu ça comme de l'audace, alors que si ça avait été une scène de sexe hétérosexuelle entre personnages blancs. Ça n'aurait pas du tout eu le même effet, ça aurait été normal. Et là-dessus, j'aimerais rebondir sur la question de la neutralité du blanc, en fait, dont Valérie a parlé. Aujourd'hui, de manière assez spectaculaire, encore une fois, le blanc est considéré comme la couleur neutre ethniquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un personnage existe et crée ex nihilo, on a tendance, et je le sais, j'écris, donc et pourtant je suis racisé, un personnage, à moins que cela ait eu un intérêt dans la manière dont je l'imaginais, etc. Pour mon premier roman, ça s'est vu. Les personnages, la quasi-totalité des personnages sont blancs. Je ne me suis même pas posé la question. Et de ce point de vue-là, il y a, par rapport à la singularisation donc, des couleurs non blanches dans le cinéma, la littérature, les jeux vidéo, etc., etc., il y a un autre phénomène qui s'y accouple, c'est l'intériorisation. L'intériorisation des systèmes oppressifs, des représentations, qui fait qu'aujourd'hui, quand bien même on est racisé, on aura tendance souvent à considérer le blanc comme une couleur neutre. Et c'est spectaculaire et très inquiétant aussi. C'est très inquiétant.
Karim, peut-être, sur cette universalisation, entre autres, de certains réalisateurs, réalisatrices.
Je reviens un peu sur le problème qu'on a une espèce de standard qui nous est un peu imposé par les médias de plus en plus présents. Et donc la lecture ne permet pas toujours. Enfin, il y a l'imaginaire qu'on se fait qui est modelé par notre environnement culturel, tous les messages qu'on reçoit qui font qu'on a une orientation vers la représentation de différents personnages. Mais du coup, il y a une influence nette de notre environnement médiatique où il y a également peut-être une question à se poser sur la représentativité dans ce domaine-là.
Valérie ?
Moi, je, l'année dernière, j'ai fait une petite conférence à la rentrée des Indés de l'imaginaire et je posais... Alors, j'écris pas, mais je lis beaucoup depuis très longtemps parce que je suis vieille. Et l'idée, c'est par exemple quand vous imaginez des choses. Moi, quand j'imagine la petite sirène, si je devais écrire la petite sirène, quand je l'imagine, la première question, la première question qui me vient sur comment ça va se passer pour cette petite sirène, c'est qu'est-ce qui se passe pour ses cheveux ? Parce que quand on est noir, l'eau et les cheveux, c'est un problème. Vraiment. Et donc, une petite sirène noire, qu'est-ce qui se passe pour ses cheveux, tout simplement? Et je pense qu'une autrice ou un auteur blanc qui écrit une petite sirène noire, eh ben, c'est pas évident qu'il ait ce type de questionnement. Parce que vous en savez, j'en sais plus sur vos cheveux de blanc, à vous tous, que vous en savez sur mes cheveux de noir. Sauf si vous avez une petite fille ou un petit garçon métis, et sauf si vous avez adopté, enfin, je ne sais pas, il y a plein de raisons pour que vous le sachiez, mais en règle générale, posez-vous la question de quand vous allez au supermarché, au rayon beauté, pourquoi il y a un tout petit rayon qui s'appelle beauté ethnique ? Déjà, le terme fait vomir, mais voilà. Donc, tout ça, c'est des quotidiens, des choses sur lesquelles vous ne vous questionnez pas. Et sur lequel, moi, quand je lis Tolkien, je ne me questionne pas en me disant est-ce que les elfes sont noirs, est-ce qu'ils ont les cheveux crépus, tout ça. Ce n'est pas vrai, je ne me questionne pas comme ça. En revanche, quand je vais voir Thor et qu'on me prend la tête parce que Heimdall est noir, franchement, je ne comprends pas. Parce que Thor, c'est de l'imagination, c'est un comics, ce n'est pas basé sur la mythologie nordique classique. Personne ne vole avec un marteau, déjà. Enfin, si vous en connaissez, vous me le montrez. Parce que s'il ressemble à Thor, ça peut être intéressant quand même. Soyons clairs. Oui, j'aime les blonds aussi, quand même, malgré tout. Et donc, il y a Thor, il a un marteau, il vole. On est au Valhalla, il y a un arc-en-ciel pour aller d'un univers à l'autre. Mais c'est quand même problématique que le gardien du Bifrost, il soit noir. au secours, au secours. Quel est le problème? Il a les yeux dorés, il est rien, en rien humain. Alors, je trouve intéressant, je sais pas, je vais pas spoiler, mais je sais pas si vous avez vu le dernier, Ragnarok. Excellent, excellentissime. Et surtout, il y a des scènes assez intéressantes de populations d'Asgard, où la population d'Asgard, il y a plein de noirs dans la foule. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, donc chez Marvel, ils ont enfin intégré l'idée que dans un univers complètement créé de toutes pièces, eh ben oui, les gens d'Asgard, ils peuvent être noirs, jaunes, blancs, et qu'on ne se pose pas la question, en fait. Là aussi, par exemple, des choses que vous vivez pas ou que je tiens d'Amandine, elle est comédienne, elle va faire un casting. Le casting demande une étudiante entre 20 et 25 ans. Elle a 24 ans, elle se dit « Yes, le rôle est pour moi ». Et quand elle arrive, le directeur de casting lui dit « Ah, mais j'ai pas demandé une noire ». Et elle lui dit « Ah bon, mais parce qu'il n'y a pas d'étudiante noire ». Voilà, c'est ça la réalité de comment on vit ici. Et moi, je trouve ça intéressant qu'on puisse dire il y a des films qui marchent très bien avec que des noirs et que tout le monde va voir. Et quand vous avez un représentant, enfin un présentateur télé qui demande au réalisateur, mais c'était pas un petit peu compliqué de tourner que avec des personnes noires? Mais gars, c'est pas plus compliqué que tourner qu'avec des personnes blanches. Il y a pas de, normalement, on devrait même plus se poser la question. On devrait plus se poser la question de savoir est-ce que Will Smith peut faire les Mystères de l'Ouest? Oui, si on a envie. Il peut être, oui, James West peut être noir, pourquoi pas? C'est très bien expliqué dans le film.
Et en même temps, on a aussi des évolutions avec les héros ou les personnages nord-africains. Alors, dans les années 60, on avait Omar Sharif, qui était le bel égyptien avec la petite moustache. C'est vrai que maintenant, que ce soit dans les jeux vidéo ou que ce soit dans les films, souvent les personnages donc nord-africains sont plutôt terroristes. Et du coup, il y a une évolution dans le jeu vidéo puisqu'il y a un marché qui commence à arriver. Et ce qui était, donc, je conseille un article du Monde sur ça, sur les personnages nord-africains dans les jeux vidéo et leur évolution. Et souvent, on se rend compte qu'il commence à avoir des évolutions de représentation liées aussi à des questions économiques. Donc, est-ce que Marvel ou Disney mettent des personnages asiatiques, noirs? C'est aussi pour plaire à tout le monde, pour toucher aussi un marché. Peut-être Karim veut rebondir sur ça, qui a été aux États-Unis.
C'est clairement très présent. Et puis bon, c'est Disney, donc la grosse machinerie américaine, de toute façon, cherche. Donc il y a le côté quota qui est aussi questionnable, mais ou qui a permis quelque part aussi d'introduire la diversité dans le cinéma. Mais il y a clairement de toute façon une recherche mercantile derrière, donc c'est difficile de voir quelle est la noblesse derrière ce type de décision.
Et toujours dans la science-fiction, et là je vais m'adresser à Cao Yifeng et puis Gwenaël Gaffrick, il y a aussi la question du techno-orientalisme. Ça veut dire que dans pas mal de films de science-fiction, notamment Blade Runner, donc le 1984 et puis même le récent, il y a dans pas mal aussi de SF, on mélange science-fiction, orientalisme, et j'aimerais bien avoir la vision de Cao Yifeng sur cette représentation.
Je vais 香港或中国城或亚洲这种有关系的空间场景的时候，我觉得第一个反应，我其实蛮悲伤的，蛮悲伤的是，我第一个反应不是那个未来，而是被摧毁的未来，就他所呈现的未来其实是一个被摧毁的未来，其实那个地球已经在小说里面是没办法生存了，所以它所有人都移民到火星，所以留在地球上面还能够存在的空间感竟然是亚洲的未来，而那个未来其实是被摧毁的。
Alors effectivement, pour répondre à votre question, dans Blade Runner ou dans les androïdes boivent-ils des moutons électriques, dans la nouvelle en question, quand je l'ai lu, moi, avant de regarder le film, j'avais absolument pas le sentiment que ça puisse se passer voilà, en Chine, à Hong Kong, au Japon. L'idée n'avait même pas traversé l'esprit. Et c'est quand effectivement j'ai vu le premier film, le premier Blade Runner, que j'ai vu qu'effectivement il y avait beaucoup d'éléments qui étaient empruntés à un imaginaire spatial autour de la Chine, de Hong Kong, etc. Et la première réaction que j'ai eue, c'était pas forcément la surprise, mais plus la tristesse, dans le sens où c'est un monde qui est effectivement futur, mais plutôt apocalyptique, puisqu'on a l'impression quand même que le futur on a vachement pris un coup, et que ce futur, on le mettait voilà, dans un espace asiatique, en plus qui était plus forcément peuplé d'asiatiques. Et donc ça m'a interrogé, presque attristé en fait, de voir finalement l'imaginaire qu'on pouvait faire d'un monde un peu détruit, et ça se passait en Asie et sans asiatiques.
可是大家如果有机会到香港，有机会到中国，或有机会到台湾，你就会发现，就是那个场景在线下的现实意义是非常生猛有力的，非常气味、香气、食物、人、声音各方面都非常嘈杂的。它绝对不是像电影里面呈现出来那种非常冷调的那种感觉。所以我觉得当时在想象这个电影的时候，它是不是有一种对于亚洲很奇怪的一种？ 寄托或者是寄想，甚至是我会假想，就是那个雷利史考克这个导演，他觉得未来，因为未来的世界如果都是亚洲的话，是不是说其实亚洲人统一了世界？
Alors, les questions qu'on se pose, effectivement, si vous avez l'occasion de vous rendre en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, vous verrez qu'effectivement, on peut retrouver des éléments très semblables, des endroits qui peuvent rappeler le film, mais que ce sont au contraire plutôt des endroits pleins de vie, de saveurs et d'odeurs bizarres que des films un peu frigorifiés ou froids comme peuvent le montrer le film. Et alors je me suis posé la question de savoir si finalement Ridley Scott, dans son imaginaire d'un futur un peu apocalyptique ou dystopique, s'imaginait peut-être pas aussi qu'au-delà de l'imaginaire orientaliste qu'il mettait en place, que c'était peut-être finalement les Asiatiques qui avaient pris le contrôle de la planète.
我想回一下小小的点，就是回应刚刚他提到的，就是说，他在写的时候，好像在写的时候会假想他其实是一个白人的人士。然后我自己的观察，在中国也好，在台湾也好，我自己阅读的经验当中，华人的小说家在书写小说人物的角色的时候，我意识到就绝大部分其实都是华人自己。那 比如说有一个不管是白人也好，或者是印第安人也好，或者是黑人也好，或阿拉伯人也好，不管是哪一个不同国家来的人，他进入到这个小说世界，他一定是一个像外星人一样存在的感觉。这是我过去读到这个台湾或中国的小说里面出现不是华人角色的时候，经常有的感觉。
Et pour répondre un peu à ce que disait Nabil tout à l'heure sur ce personnage un peu standard dont on ne se pose pas forcément la question tout de suite au premier abord quand on écrit de sa couleur de peau, mais qui est un personnage standard qui existe en fait en tant que catégorie. C'est vrai que dans la plupart des cas, en Chine, à Taïwan, quand on écrit des romans, on ne réfléchit pas vraiment à la question. Ce sont forcément des Chinois qui sont les personnages de nos histoires. Et effectivement, quand des personnages peut-être issus d'autres régions ou d'Afrique du Nord... d'Afrique, européens, etc. Quand ils apparaissent, c'est généralement pas comme des personnages classiques, mais plutôt comme presque des extraterrestres ou en tout cas des intrus à l'intérieur d'un récit.
Et cette question, enfin là donc on a du techno-orientalisme et puis bientôt, je sais pas, du techno-africanisme. Peut-être certains ont vu la bande-annonce de Black Panthers. Donc c'est prochain Marvel en fait, film de science-fiction où donc bien sûr tout le monde est noir et ça se passe en Afrique. Dans une Afrique assez, voilà, assez, on mélange plein de choses et c'est ça qu'on retrouve en fait. C'est-à-dire que au niveau des productions, là on parle de grosses productions hollywoodiennes, il y a une espèce de patchwork et puis comme une grande couverture avec, on va incorporer plein de références différentes et variées pour essayer de faire quelque chose d'universel. On retrouve sur ça, Valérie.
Alors, Black Panther, mais évidemment, c'est une attente. Mais voilà, ça, c'est terrible de se dire qu'à un moment, on est, quand on est racisé, on est en attente d'un truc qui soit juste à notre destination parce qu'on ne se sent pas représenté ailleurs. Ça devrait être la joie pour tout le monde que Black Panther soit adapté parce que c'est des personnages très forts, parce que ça permet d'avoir, là, pour le coup, une autre façon de se représenter l'Afrique, c'est-à-dire pas l'Afrique en pagne, en boubou, en train de avec traînant ont des pieds un peu pauvres, avec des petits noirs qui mangent pas et qui ont des mouches plein les yeux. Les petits noirs, ils ont des bras, hein, donc ils enlèvent les mouches des yeux aussi. Donc cette image moisie de l'Afrique pauvre et paupérisée, elle est insupportable. Hein, la plupart du temps, elle est insupportable parce que en fait. Les richesses, elles sont là, quoi. On est un continent pillé, mais les richesses du monde à l'heure actuelle, elles sont principalement là. Donc la façon dont l'Europe vit, je ne sais pas si vous connaissez l'autrice qui s'appelle Fatou Diom, qui dit à un moment, si l'Afrique coule, on vous entraînera dans notre chute. On est comme un boulet à la cheville de l'Occident, et si l'Afrique chute, l'Occident coulera aussi. Et ça, je pense qu'il est temps d'en prendre conscience, de prendre conscience que les énergies vives, elles sont pas forcément chez nous, et qu'elles sont multiples. Et Wakanda, cette représentation d'une Afrique technologiquement avancée, mais secrète. Mais pourquoi secrète ? Parce que il y a un mème qui est très drôle où on voit une photo d'un espèce de paradis un peu comme l'île Maurice, et il y a quelqu'un qui dit à la personne qui montre la photo « Eh, mais cache-le, parce que si les Blancs le voient, ils vont t'envahir dans les 10 minutes qui viennent. »
Ça, voilà, c'est comme les Chinois, ils sont fourbes, en fait, c'est bien connu.
Le Blanc est fourbe, tu veux dire, plus que le Chinois ?
Non, je disais non, la représentation du Chinois dans Fu Manchu, par exemple.
Mais bien sûr, c'est horrible.
C'était la même chose, quoi. Ils sont fourbes, en fait. Le on générique, qui est donc le on blanc, ne comprend pas, ou en tout cas pour lui c'est mystérieux, on a l'impression que c'est forcément parce qu'il cache quelque chose, quoi.
Et qu'on a tous des habitudes culturelles différentes et qui ne sont pas forcément moins bonnes ou meilleures, elles sont différentes, tout simplement. Alors Wakanda, oui, c'est l'idée que si un pays africain a envie de garder sa richesse, eh ben, il a intérêt à la garder secrète. Et je me pose la question, alors moi j'écris pas, encore une fois, mais moi je me pose la question, par exemple, c'est une question qui apparaît maintenant auprès des auteurs américains principalement, j'ose croire que ça finira par venir en France, c'est la question du sensitivity reader. C'est-à-dire que quand on écrit et qu'on n'écrit pas un personnage de sa propre voix ou de ce qui nous ressemble, est-ce qu'on doit faire appel à des personnes qui vous bêtalisent ou qui analysent le personnage que vous êtes en train de créer pour savoir s'il est cohérent, s'il est respectueux, s'il ne fait pas des trucs... voilà, par exemple, moi, si demain vous écrivez une fille noire... ça serait bien qu'elle se passe de la crème sur la peau tous les jours, parce qu'on a des peaux un petit peu différentes et que donc nous, dès qu'on est toute petite, on s'apprend à se passer de la crème sur la peau tous les jours, voilà. Donc la fille noire qui sortirait de chez elle en deux temps trois mouvements en ayant passé un coup de brosse dans ses cheveux, no way, ça marche pas, ça, voilà. Donc tout ça, c'est des petits détails sur les personnages qui rendent les choses qui rendent les personnages profonds. J'écoutais hier Guy Gabriel Kay dire que contrairement à ce que disaient pas mal de professeurs d'écriture, il fallait écrire sur autre chose que ce qu'on connaît. J'étais complètement d'accord avec lui. Hein. Si on a envie de montrer le monde aux gens, peut-être qu'il faut sortir de sa zone de confort. Mais en même temps, se pose la question de si vous écrivez quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, est-ce que vous l'écrivez correctement ? Voilà, peut-être que Nabil...
Ouais, pour le coup, la question s'est posée à moi par rapport à, pas forcément par rapport à la question ethnique ou de couleur, mais c'est transverse, par rapport au fait, par exemple, de parler des femmes. Quand on est un homme, quelle légitimité on a ou quelle prudence on doit avoir lorsqu'on écrit un personnage féminin qui, évidemment, dans son quotidien, est confronté à toutes sortes de situations qu'un homme ne connaît pas, ne comprend pas forcément non plus. Et la question se pose aussi, on en parlait dans une table ronde vendredi matin, sur la question de l'âge, comment on fait pour écrire sur des personnages plus âgés ou plus jeunes, etc. Et je pense que de toute façon, je ne suis pas convaincu qu'il faille, je pense qu'il faut tâtonner, je pense qu'il faut chercher, mais surtout ne pas hésiter à se vérifier, et donc se faire vérifier par des personnes concernées. Ça paraît tout bête, mais voilà, si je me mets à écrire quelque chose sur quelqu'un d'un milieu social totalement différent du mien, ou simplement écrire un personnage féminin, bah, j'ai bien envie de me dire, bon ok, c'est du bon sens, je sais à peu près comment fonctionnent les gens, parce que j'ose espérer qu'en tant qu'auteur j'arrive à me projeter quand même chez les autres pour comprendre comment ils fonctionnent eux-mêmes par rapport encore une fois à leur histoire, leur sexe, leur genre, leur milieu social, etc., etc. Il n'empêche que ma vision est forcément restreinte, qu'elle procède du bon sens et de l'intelligence, de l'expérience, de la recherche, mais que
pour être vraiment enrichie, pas forcément complète, parce que je pense pas qu'elle puisse l'être, mais pour être le plus proche possible de la réalité et donc respectueuse des personnes concernées, ça me paraît logique, à un moment donné, d'aborder la question avec quelqu'un qui l'est. C'est... Ça, en fait, ça paraît évident. Et ça paraît d'autant plus évident quand ça a un impact sur le récit. Par exemple, il y a des personnages donc racisés ou d'un genre qui n'est non masculin, donc non ou de personnages non hétéros, etc. Bref, toutes sortes de personnages qui peuvent être discriminés pour x ou y raison. Parfois, ça sert à rien, ça n'a aucun impact. Par exemple, si vous allez lire l'anthologie des Utopiales de cette année, il en reste quasiment plus, donc dépêchez-vous. Mais j'ai écrit une nouvelle dedans. Il y a un personnage qui est noir, et je me suis demandé est-ce que ça a un intérêt de le dire. Non, il y a un personnage qui est noir. Je l'ai imaginé noir. Je pense que si on a certaines sensibilités et qu'on peut je sais pas, peut-être sociologique, ou je pense qu'on peut se dire qu'il y a une certaine probabilité pour que ce personnage soit noir. Mais le fait de le dire, de dire il est noir alors que ça n'a aucun impact sur le récit, ça l'aurait simplement singularisé en fait. Et justement, c'est ce qu'on aimerait bien arrêter de faire, c'est singulariser les personnes sur la base de caractéristiques qui ne sont pas dominantes, c'est-à-dire blanc, hétéro, cis, mâle, etc. Et parce qu'à force de singulariser des personnages, en fait, on crée un autre. Et on alimente encore une fois cette idée selon laquelle ce qui n'est pas singularisé, c'est ce qui est neutre, le blanc.
Cao Yifeng, est-ce que vous avez une réaction à rebondir ?
我常觉得就是说，当我们去思考那个科幻小说里面的角色的时候，我们究竟要把它设定成是真人还是一个 AI 或者是一个 cyborg？ 那有没有一个可能，就是说，当我在创造一个科幻小说这么自由的、这么绝对的、这么可以容忍想象力发挥的一种载体，我可以把就是把这个机器人都变成是黑人。然后呢，把这个赛博克呢变成白人啊，可能所有的这个奇怪的这个工作者呢，都变成是这个黄种人，或者是某一种在特殊意象的人，都用一种机器人式的或 AI 式的方式去创造角色。原因是因为刚刚提到，就是说，如果我需要去投射一个真人的角色的时候，我必须要进入到非常深的心灵灵魂的地方。但是我在创造一个科幻小说里面的角色人物的时候，我其实是可以赋予这样子的 AI 或这样子的赛博克，他们是拥有他跟他我们所想象的像是已经存在的皮肤种族这种差异的完全不一样的设定。然后那个设定，我认为就是科幻小说最棒的地方。
Oui, j'avais envie de répondre à cette question dans le sens où elle est essentielle pour moi et elle touche aussi à ce que l'essence de la science-fiction également. L'immense richesse que permet la science-fiction à l'écrivain, c'est qu'il permet justement de déplacer, de disloquer un petit peu toutes ces représentations-là. Quand on écrit, par exemple, et qu'on doit designer ou concevoir un personnage noir ou un personnage pauvre, un personnage riche, vieux, etc., on a un grand travail de recherche à faire qui est un travail de base de celui de l'écrivain, d'aller essayer de comprendre le mieux possible ce qui peut se passer aussi dans la tête de ce genre de personnage. L'avantage, toute la richesse que permet la science-fiction, l'espace qu'elle libère, permet justement d'appliquer, admettons que les personnages, ce soit donc des cyborgs ou des robots, des attributs qu'on pourrait estimer figés dans le monde réel, savoir donner à un cyborg la peau noire, la peau jaune à un robot, la peau blanche à un ouvrier, peu importe. Et grâce à la science-fiction, l'écrivain peut se permettre de jouer ou de décaler les codes qui existent, en tout cas dans les sociétés d'aujourd'hui. Et c'est l'un des immenses avantages de la science-fiction, de jouer, de perturber, de casser ces codes-là.
Parce que nous avons parlé beaucoup de l'action de la vidéo, mais la vidéo est maintenant très populaire dans les médias de la société. 因为好莱坞的关系中的东西，所以在电影里面，如果要改变我们刚刚讨论的肤色的问题，或者是种族的一种阶级式的问题，我觉得它的速度会非常缓慢。但是就是科幻小说家们，我觉得他是可以改变这件事情，非常快，因为他可以马上就透过科幻小说的设定去改变肤色的权力关系，去改变种族的定位关系。那这些设定一进去之后，我觉得不管透过真的人或者是 AI 的这种机器人的角度去看，我觉得投射出去的讯息会远远比电影来得更快速，它的速度会更快。
Et alors sur la question par exemple des films dont on parlait tout à l'heure avec cette question de la représentation de personnages non blancs ou racisés dans l'imaginaire cinématographique, c'est un processus qui, même si c'est effectivement un média extrêmement populaire et le plus sans doute le plus vu et qui bénéficie de la meilleure visibilité, à mon avis ce sera l'endroit le plus lent pour justement travailler sur ce type de représentation et de bouleverser ce type de représentation. Alors que peut-être que les romanciers de science-fiction, au contraire, eux peuvent aller très vite dans la manière dont on va bouleverser, renverser le pouvoir entre le pouvoir, les différences de classe, etc., entre des personnages appartenant à différentes origines, etc. Et donc c'est peut-être par le roman, par la littérature, que les choses iront plus vite que par le cinéma, malheureusement.
Très bien. Alors on va maintenant passer à quelques questions-réponses. Il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, monsieur au fond? Est-ce que le monsieur peut lever la main? Ouais, merci.
Merci beaucoup.
Ça joue?
Ah oui, c'est bon, pardon. OK. Merci beaucoup pour cette discussion et beaucoup d'idées qui ont émergé. Moi, la question que je me pose pour rebondir aussi sur certaines choses qui ont été avancées, c'est le rôle de la figure fictionnelle, pour le coup, de l'extraterrestre par rapport à ça. Parce que si on essaye de... Si on pense... Il me semble que le thème récurrent ici, c'est la question de l'altérité. Qu'est-ce qui représente le mieux cette altérité que quelqu'un ou quelque chose plutôt qui serait extérieur à toute forme de racialisation, puisque supposément appartenant à un autre monde où s'exercent d'autres structures, d'autres manières d'autres modes d'appréhension. Et dans quelle mesure est-ce que, à votre avis, la figure de l'extraterrestre peut permettre de penser peut-être avec plus de profondeur les questions de racialisation, les questions de pluralité et de favoriser justement la diversité de nos perceptions, de nos perspectives sur la société.
Merci, excellente question. Alors, qui veut répondre?
Je pense que oui, effectivement, l'ajout d'un nouvel élément dans la complexité qu'est l'humanité forcément va influencer un peu la perception qu'on a de chacun et peut-être exacerber justement la diversité au sein de l'humanité, tout en étant on se rend donc compte que en fait pour reprendre un peu le fait qu'on est tous pareils, qu'il n'y a pas de couleur, de race et compagnie, quelque part c'est un peu vrai si on se projette plus au niveau cosmique et de la vie autre que de celle qu'il peut avoir sur la Terre, c'est qu'on on est quand même très proche au final. Et que l'arrivée d'une entité extraterrestre peut probablement renforcer ce lien et réaliser qu'on est un ensemble qui nécessite de cohabiter ensemble et de préserver cet imaginaire avec une cohérence globale incluant toutes les entités humaines et pas seulement un standard.
Nabil, en tant qu'auteur?
Pardon, pas forcément en tant qu'auteur, mais pour le coup plus en tant que cinéphile. Par rapport à la question de concrètement, la question de l'alien rejoint souvent la question, donc, comme vous l'avez dit, de l'altérité, et donc de l'exotisme, et donc de la xénophobie. Et simplement par rapport à cette question, je pense que de toute façon, il y a un terreau dans la littérature qui parle d'extraterrestres, ou le cinéma qui parle d'extraterrestres, sur la question de la xénophobie. Et pour donner un exemple, peut-être, si vous connaissez Chroma, qui est une émission animée et produite par Karim Debbache et ses acolytes. Il y a un épisode sur Signe, le film de Night Shyamalan, qui propose une lecture assez intéressante en fait, du film Signe. Donc Signe, c'est simplement une famille d'agriculteurs qui se retrouve un matin avec des cercles de culture dans les champs. Ils voient un extraterrestre, enfin, bon, c'est l'invasion, etc. Et en fait, les personnages, comment dire, il y a une interprétation du film selon laquelle en fait le personnage de l'extraterrestre en fait est un personnage donc étranger, donc ethnique ou etc., on s'en fiche, mais la réaction en fait des personnages par rapport à l'extraterrestre est
calquer, juxtaposer en fait aux réactions qu'ont les personnes racistes, qui ont xénophobes, qui ont peur de l'étranger, qui sont dans des situations socio-économiques assez compliquées, assez reculées, dans l'Amérique profonde, etc. Et typiquement, le fait de voir Signe avec cette grille de lecture, bah, c'est intéressant, et je pense qu'effectivement, la figure de l'extraterrestre, en tout cas, est pour moi vraiment très intéressante du point de vue de la représentation du personnage non blanc.
Et puis il y a aussi District 9, qui est aussi un film très intéressant, qui excellent. Raconte aussi l'immigration par les aliens, c'est incroyable. Enfin,
voilà, là typiquement, il y a deux lectures sur ce film, il y a plein de gens qui trouvent ça très bien, qu'il ait proposé cette représentation de l'extraterrestre, cette critique de l'apartheid et tout. Non, c'est pas vraiment cette critique de l'apartheid, c'est quand même tout d'un coup des camps où les seules personnes qui se mettent à manger les extraterrestres, parce qu'ils pourraient prendre leur puissance, qui se mettent à être des méchants mercenaires, c'est des Noirs. Pardon, en Afrique, des mercenaires, c'est les Noirs. Non, en Afrique, les mercenaires, c'est Total, c'est Vivendi, c'est une partie de la richesse chinoise, c'est les Libanais. Voilà, en Afrique, les vrais mercenaires, c'est ça. Hein, c'est pas des Noirs qui en Afrique du Sud iraient être des méchants, parce que c'est des barbares de toute façon, hein. C'est des gens qui mangent de la chair extraterrestre ou humaine, peu importe, ils ont un os dans le nez, et c'est des vilains. Donc voilà, donc moi cette vision District 9, pour moi c'est un vrai choc, parce que j'y allais en mode, ouais, un film de science-fiction qui va parler de l'apartheid et qui introduit l'altérité, qui introduit l'extraterrestre, mais c'était un ratage absolu. Et d'ailleurs c'est un point de vue très personnel, hein, mais je sais qu'on est quelques-uns à le partager. Sa vision, son robot dans le film suivant, c'est aussi là-dessus. Il crée un robot, et le robot est juste le réceptacle de toute une quantité de comportements oppressifs et sur lequel il n'y a pas de nouveauté. Blade Runner, le dernier, excusez-moi, mais Ridley Scott, Old White Man, avec un imaginaire que, donc, en 2049, les robots qu'on va créer, ils serviront juste de réceptacle aux fantasmes sexuels masculins. Pardon, mais est-ce qu'on peut progresser? Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de progrès, quoi. On n'avance pas. Il n'y a pas de noir dans son futur. Bon, on est plus à Las Vegas qu'en Asie, youpi, mais ça n'a pas avancé. Donc moi ce que je en réponse à votre question de l'altérité, moi je me dis oui, peut-être que l'extraterrestre est une question et la possibilité d'introduire l'altérité, mais comme l'a dit Nabil, pour parler à la white belt américaine, c'est-à-dire au racisme profond du centre des États-Unis, ça sera pas suffisant, hein, parce que de toute façon, pour la white belt américaine, le noir, l'homosexuel, la personne différente, elle est déjà un extraterrestre, et qu'on leur a nourri leur imaginaire avec le fait que tout ce qui vient d'ailleurs est dangereux, et tout ce qui vient d'ailleurs remet en question leur façon de vivre. Moi je vous invite à lire par exemple Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor. Moi là je vois un progrès quand je vois que les prix Hugo récemment ont été remis à des autrices noires américaines. Je me dis bon, ben on avance, parce que quand même pour écrire des choses qui parlent d'ailleurs, ben pour l'instant il y a une vraie résistance d'une certaine quantité d'auteurs blancs américains, même de SF, hein, qui ont du mal. Enfin moi je sais pas si vous connaissez Nora Jemisin, je l'ai vue aux Imaginales il y a quelques années. Elle m'expliquait que quand elle allait en convention aux États-Unis, il y a encore des gens qui lui touchaient les cheveux. Moi ça m'arrive encore à Paris dans le bus que des gens me touchent les cheveux. C'est au secours, quoi. Personne ne touche les cheveux aux blancs. Moi, je ne touche pas les cheveux aux enfants. Je ne touche pas les cheveux à un inconnu dans la rue pour savoir comment c'est joli ses cheveux. Voilà, donc Nora Jemisin, autrice de SF connue, en 2016, quand elle va dans une convention de science-fiction, donc de gens qui sont censés penser le futur, eh ben, y a encore des gens qui lui touchent les cheveux. Voilà. Donc l'altérité, c'est pas pour tout de suite, quoi.
Puis on peut des fois, dans certains films, il y a un côté assez incroyable, hein. Je repense souvent à Independence Day, où le président des États-Unis va prendre son avion de chasse pour se battre contre les aliens. Ça aussi, on retrouve même dans certains films, on va dire, tous les grands poncifs américains.
Les Maasai qui sautent à la fin du film pour applaudir aux chutes des...
C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? On a le temps pour une dernière question. Oui.
Bonjour, merci beaucoup du coup pour cette table ronde tant attendue. Depuis tout à l'heure, on parle de la représentation et du manque du coup de personnes racisées dans la représentation dans la science-fiction. Je me demandais si un des effets, c'était pas aussi le manque d'auteurs et d'autrices du coup racisées dans la SF, et du coup on en a deux, c'est rare. J'aurais aimé savoir comment ça s'était construit pour être racisé et auteur de SF.
Merci beaucoup. Nabil.
Désolé, je me suis pas senti. En fait, voilà. Alors pour le coup, c'est assez amusant. Je vous en fais l'aveu. Quand on m'a proposé cette table ronde, je me suis demandé si j'étais légitime. Pour la simple et bonne raison que j'ai compris en fait que j'étais racisé très récemment. J'ai 26 ans, très très vieux. Mais j'ai eu la chance de grandir dans un milieu assez un contexte environnemental et géographique assez favorisé. Et j'ai très peu, de manière même rétrospective, en y réfléchissant bien, j'ai peu vécu le racisme en fait. Et du coup, je me suis tout de suite demandé est-ce que je suis légitime, parce que concrètement, j'ai été assez épargné à ce niveau-là. Et les quelques occurrences qu'il y a eu dans ma vie où vraiment j'ai compris qu'aux yeux de certaines personnes, j'étais l'autre, en fait, elles sont assez rares et j'en suis plutôt content. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que c'est con, mais je me suis pas du tout senti concerné par cette question. Et je me dis, donc attends, de qui on parle? J'étais un peu dans la lune, mais alors du coup, c'est. Mais personnellement, par rapport à l'écriture, devenir auteur, etc., j'ai pas senti de frein. Je me suis demandé s'il fallait prendre un pseudo. C'est bête, hein, mais voilà, je me suis demandé s'il fallait prendre un pseudo parce qu'il est déjà arrivé, ça paraît fou. Il est déjà arrivé en France, dans un salon littéraire, que quelqu'un vienne devant moi, très intéressé, très enthousiaste, et me dise : vous écrivez en français ? Oui. Alors que j'aurais aimé connaître et à savoir écrire l'arabe, mais c'était pas le cas. Et non, oui, j'écris en français. Et ça paraît pas spontané et automatique en fait. Mais j'ai quand même personnellement eu beaucoup de chance, donc je ne pense pas encore une fois être représentatif des difficultés que les personnes racisées ou femmes ou autres discriminés auxquels ils se retrouvent confrontés en fait quand ils arrivent dans le milieu, quoi.
Cao Yifeng, une réponse courte pour pas trop retarder la conférence qui arrive derrière.
首先在华文世界不会有人去质疑你是不是用中文书写，这是必然的现象。再来就是确实我刚开始拿到这个题目的时候确实非常的困扰，因为我不太确定我要谈什么。但是那个困扰本身不是一种带有歧视的困扰，没有，我没有这种感觉，因为对我来说这是这或许是这几天来我自己的对谈当中我收获最大的一场对谈，原因是因为这个题目我觉得是非常值得探讨的，特别是在科幻小说这个领域里面，就像我刚刚说的，科幻小说有可能是我认为最有机会解决我们这个题目所带来的困扰的一个小说创作载体，这是我短暂的意见的。
Pour vous répondre assez rapidement, donc de même, alors on pose généralement pas trop la question à Taïwan, si on écrit en chinois, ça va un peu de soi. Concernant cette table ronde, je me suis posé un peu la même question que Nabil concernant ma légitimité à être là. En tout cas, ça m'a étonné, ça m'a apporté un peu d'embarras, non pas tellement d'être racisé, mais surtout de savoir de ce que j'allais y dire. Je le regrette pas parce que les débats qui ont été échangés m'ont semblé vraiment intéressants. Et particulièrement dans ce contexte-là des utopiales où, comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'est par la science-fiction, ou en tout cas, entre autres, par la science-fiction, que ce genre d'embarras soulevé par le titre même de cette table ronde peut être, sinon résolu, du moins discuté.
Très bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup et merci à vous tous.